La Bible nous invite souvent à veiller sur notre santé intérieure, sur l'état de notre relation avec Dieu et de notre relation les uns avec les autres. Alors je voudrais pour cela lire un texte qu'on connaît bien, un texte que généralement on aime bien utiliser au moment des vœux. Je pense que déjà vous avez trouvé de quel texte il s'agit. Un texte qui semble bien approprié pour exprimer les meilleurs vœux que nous pouvons nous souhaiter au début d'une année nouvelle. Alors je sais qu'on n'est pas au premier de l'an, mais la parole de Dieu est éternelle, donc quelles que soient les saisons et les temps, ce texte m'a parlé ces derniers temps pour justement nous montrer l'intérêt de Dieu pour notre santé, dans tous les domaines certes, mais aussi et surtout de notre santé spirituelle. Ce texte se trouve dans la troisième épître de Jean, au chapitre, enfin il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un chapitre, au verset 2. Et il exprime un souhait, un vœu de l'apôtre Jean pour un bien-aimé qui s'appelle Gaius, quelqu'un qu'il affectionne particulièrement, et à qui il dit, je lis, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. » Alors, si vous le connaissez bien, ce texte, c'est vraiment un texte très facile à mettre sur les cartes de vœux de bonne année, mais au-delà d'une civilité, d'une affection que l'on se manifeste année après année, il y a là une intention de Dieu sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête ce matin. D'abord, finalement, le salut que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ est ce qui pourvoit à une bonne santé pour nos vies. Bonne santé morale, bonne santé relationnelle, bonne santé physique aussi. On croit à la capacité de Dieu de renouveler nos forces physiques et d'apporter la guérison, et une bonne santé spirituelle. Et c'est vraiment son intention. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance », on ne parle pas simplement de la vie éternelle dans sa dimension de durée et donc d'éternité, mais on parle de la vie éternelle dans sa dimension de plénitude, de qualité. Et la vie avec Dieu est une vie de qualité, n'est-ce pas ? Il y a du plaisir dans la présence de Dieu, il y a de l'épanouissement, il y a de la croissance, il y a de la liberté, il y a de la joie. Et c'est vraiment le salut. Alors ça n'exclut pas la souffrance, ça n'exclut pas les difficultés, ça n'exclut pas les épreuves, mais même au sein de ces situations parfois compliquées, la volonté de Dieu, c'est que nous ayons une vie intérieure qui déborde de sa présence, de sa paix et de sa plénitude. Alors pour ça, je propose qu'on fasse une sorte de radiographie de différents domaines de nos vies. Je vais vous proposer 5 domaines, très rapidement. J'espère, j'ai une horloge devant moi qui me permettra de rester dans des temps raisonnables. Une radiographie de différents domaines dans lesquels Dieu veut pourvoir à notre bonne santé. Alors bien sûr, chacun de ces domaines mériterait qu'on s'y arrête pour chacun pour sa part en profondeur. C'est pas mon but, c'est juste de montrer poser quelques questions, donner quelques tests que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes pour évaluer si nous sommes en bonne santé ou s'il y a encore, bien sûr, et certainement qu'il y aura des dimensions de guérison, de renouvellement et de soins que Dieu veut nous apporter. Premier domaine, évidemment, qui est basique, fondamental dans notre relation, dans notre vie, les uns et les autres, c'est la relation avec Dieu. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, ce qui est déterminant pour notre bonne santé intérieure, c'est la relation avec Dieu. Quand on va bien, cette relation, elle apporte joie, sécurité, reconnaissance. Quand ça va mal, elle apporte secours, protection et aussi consolation. Simplement, quand on parle de la relation avec Dieu, de sa communion avec Dieu, chacun, on est devant quelque chose qui est assez indéfinissable. Parce qu'on a chacun un chemin personnel dans la relation avec Dieu. On ne peut pas comparer la relation de chacun avec Dieu avec celle de l'autre, du frère ou de la sœur à côté. Chacun a son chemin, chacun a sa façon de la vivre, de l'expérimenter, de la ressentir, d'y entrer et de la vivre en profondeur. C'est vraiment très, très personnel et très particulier. C'est très important de dire ça parce que des fois, on se compare un peu à un tel ou à tel autre. On dit « Ah, moi, je n'ai pas l'intimité de cette personne avec le Seigneur. » Non. Je veux d'abord clarifier, chacun a son chemin, chacun a sa façon de la vivre. Certains la vivront avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'extériorisation, d'autres la vivront avec beaucoup plus d'intériorité. Ça dépend beaucoup de nos caractères, de nos cultures. Et les cultures, vous savez ce que c'est ici, puisque vous les mettez à l'honneur. Et donc, on ne met pas la relation avec Dieu, on ne met pas des critères extérieurs pour la mesurer. mais plutôt des critères intérieurs. Je lirai un texte du psaume 24-24 qui dit le plaisir de la présence de Dieu. Et il illustre cette dimension de la présence de Dieu par l'image de demeure, de la maison. Il dit au chapitre 84, verset 2, ce psalmiste, « Combien tes demeures sont chéries, éternelle des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Mais tes autels, vous sentez l'aspiration de cet homme à la présence, à l'intimité avec Dieu. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Un des textes, parmi d'autres, qui exprime le plaisir, l'aspiration, la recherche de la présence et de la relation avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous partageons tous. Nous avons tous envie. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons vivre des temps forts dans sa présence. Nous le faisons individuellement et nous le faisons en communauté. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, comment évaluer cette communion avec Dieu pour chacun d'entre nous ce matin? Pas, je le disais, avec des critères extérieurs, émotionnels seulement, qui ont leur place selon notre tempérament et notre culture, mais qui ne sont pas déterminants. Moi, je me pose souvent ces questions-là, finalement, pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu. C'est d'abord l'orientation du cœur. Vers quoi me porte mon cœur? Quelles sont les préoccupations profondes dans ma vie? Au-delà des activités, au-delà des responsabilités, au-delà des soucis, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans l'orientation de mon cœur? Est-ce que c'est la recherche de sa présence? Est-ce que c'est la recherche de son approbation? Est-ce que c'est la recherche de sa volonté? Ou c'est simple, ou est-ce que je me laisse absorber par les sollicitations, par les situations, les circonstances que je rencontre, qui accaparent toute mon énergie, toute mon attention et qui finalement me détournent de lui? Même quand c'est le cas, quand nous sommes sollicités par beaucoup de choses, intérieurement en nous, il y a ce désir de dire « Seigneur, quelle est ta volonté? Quel est ton plan ?» C'est un signe de la nouvelle naissance. C'est un signe de notre filiation avec Dieu que de chercher sans cesse son regard. Même la nuit, quand on se réveille, parce que quand on a un âge un peu avancé comme moi, eh bien, des fois, la nuit, on ne dort plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps-là? Vous savez, la nuit, c'est le moment dans lequel les soucis, les préoccupations nous assaillent, puis tournent, remplissent notre univers. Profitons de ces moments pour nous tourner vers Dieu, rester dans sa présence et pouvoir chercher son regard, chercher sa présence. Ça, c'est un test personnel. Vers qui se tourne mon cœur en permanence, au travail, devant un défi, devant une situation inattendue, dans les moments de loisirs, dans les moments du quotidien? Vers quoi, vers qui me porte mon cœur? Et ça, c'est ce premier critère, ce premier test qui est très simple. Il suffit de s'écouter, parfois prier, d'écouter ses pensées, de voir comment est-ce qu'on réagit intérieurement. L'autre test pour moi d'une bonne santé dans la relation avec Dieu, c'est l'amour pour Dieu, bien sûr, mais plus pour ce qu'il est que pour ce qu'il nous donne. Une banalité, parce qu'on l'a entendu combien de fois. On le sait, on doit aimer Dieu pour sa personne, pour qui il est. La vie éternelle, c'est de le connaître, c'est de savoir qui est Dieu pour moi, c'est de pouvoir le louer et l'élever parce que je sais en qui j'ai cru, je connais sa personne, je connais son caractère, je connais sa bonté. Mais parfois, il faut dire que notre relation avec lui est beaucoup plus déterminée par ce que nous recevons. Ça peut nous arriver, parce que nous recevons de lui. Et nous avons toutes sortes de réactions qui montrent que finalement, on est tellement attaché à ce qu'il nous donne, tellement attaché à ce que nous recevons de lui. Et c'est normal, nous devons être reconnaissants. Mais ça ne doit pas être ce qui détermine notre relation avec Dieu. Vous savez comment ça se passe? On a tous vécu des temps difficiles, parfois, sur le plan de souffrance ou relationnelle, ou de perte de bien-aimés, de non-exaucement de prières, des choses comme cela. Et souvent, la question qui vient dans notre esprit, c'est dit, pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi ce qui paraît être un échec? Et là, dans ces moments-là, eh bien, on est absorbé par plutôt le fait que Dieu n'aurait pas répondu apparemment à notre prière, plutôt que de rester dans la paix de sa présence. C'est dans le calme et la confiance, dit le Seigneur, que réside notre force. Pouvoir l'aimer, pouvoir s'attacher à lui, indépendamment de ce que nous pouvons voir ou recevoir de sa personne ou de son action, même si Dieu veut agir, même s'il veut nous donner en abondance, évidemment. Alors, l'attachement à sa personne, est-ce qu'il y a des élans de cœur pour sa personne, d'amour, d'affection? Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas été bouleversé par sa bonté, par son affection, par sa tendresse? Depuis combien de temps est-ce qu'il n'y a pas eu d'élan de cœur? Oh, j'espère que ça date de pas si longtemps, ce temps de culte. C'est un temps où notre cœur s'élève vers lui pour dire notre amour, notre affection, notre reconnaissance pour lui. C'est pourquoi, et je terminerai sur ce point de la relation avec Dieu, je crois que ce qui détermine la qualité de notre relation avec Dieu, ce qu'il exprime, ce qui permet de l'évaluer, c'est, j'allais dire le niveau, est-ce qu'on peut parler de ça, mais c'est l'attitude de louange dans nos cœurs. Louange et reconnaissance. Quand la louange remplit nos cœurs, quand la reconnaissance remplit nos cœurs, en chaque instant, là, on peut être rassuré sur notre relation avec Dieu. Elle peut toujours être améliorée, approfondie, développée, mais c'est quand même le signe que nous sommes connectés avec Dieu. Vous savez, la reconnaissance, c'est essentiel. La Bible dit qu'on entre dans sa présence avec reconnaissance, avec action de grâce. C'est plus qu'une habitude de dire merci, c'est plus qu'une mesure de politesse, c'est une expression de l'attitude de notre cœur devant Dieu. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. » Ça ne veut pas dire que toutes les circonstances et parfois le mal que l'on peut subir à travers les circonstances viennent de Dieu. Dieu ne tente personne, il n'est pas l'auteur du mal. Et pourtant, il nous dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances ». C'est simplement cette attitude qui consiste à reconnaître que Dieu est souverain, que Dieu est avec nous et qu'au sein de toutes circonstances, même les plus difficiles, il a la capacité de changer le mal en bien. Il a la capacité de nous apprendre quelque chose. Il a la capacité de révéler encore plus de qui il est. Et c'est pourquoi nous pouvons lui rendre grâce. Et je remarque dans ma vie que plus je suis en relation avec Dieu, plus la reconnaissance grandit. Quand je sens que la reconnaissance baisse d'intensité dans mon être intérieur, là je m'inquiète un peu et bon, je dis, voilà un test. Hein, voilà un test pour notre fameux check-up spirituel. L'abondance de la reconnaissance est le signe de notre relation avec Dieu. Vous savez, la reconnaissance, c'est comme les soucis et l'inquiétude, mais de manière inversée. Quand je commence à voir ce qui ne va pas, à m'inquiéter pour le lendemain ou de situations qui me préoccupent, c'est quelque chose qui grandit l'inquiétude, qui grossit la peur. Plus on voit les choses de manière sombre, négative, et plus ça accapare et ça remplit notre champ de vision. La reconnaissance, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. C'est que plus je commence à voir Dieu dans le détail de ma vie, en lui rendant grâce pour sa souveraineté, sa bonté, sa présence, son action, plus ça grandit, plus je discerne des domaines dans lesquels il est intervenu, et je ne m'en suis même pas rendu compte. Et ma reconnaissance grandit, et elle se nourrit. C'est comme un fleuve qui monte, qui passe, qui coule, et qui monte vers la présence de Dieu en louange et en action de grâce. Alors, louange, foi, attitude du cœur, c'est ça. C'est aujourd'hui le moment de se dire où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que c'est quelques questions de qui est Dieu pour moi? Comment est-ce que je vis la relation avec lui? Est-ce que je peux passer ce test de manière positive ou est-ce que j'ai besoin de revenir dans sa présence et de me reconnecter avec lui? Ce matin, c'est l'occasion pour le vivre et puis pour l'expérimenter à nouveau. Deuxième domaine, peut-être un peu plus concret, peut-être pour certains, c'est celui de nos fragilités. Faire le test de nos fragilités. Ah, vous me direz, ah non, moi je suis dans la victoire. Moi, je n'ai pas de fragilité, le Seigneur a tout accompli pour moi, tout va bien. Très bien. Mais alors, je vous propose de lire, par exemple, ce que dit l'apôtre Jacques, chapitre 3, et au verset 2, quand il dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et puis l'apôtre Jacques continue sur la maîtrise de la langue, un sujet qui nous est commun à chacun, parce qu'on a bien besoin d'apprendre à maîtriser notre langue et au-delà de notre langue, ce que nous pensons et ce que nous vivons intérieurement, parce que la langue ne fait qu'exprimer l'abondance du cœur. Hein. Voilà. Donc, mais au-delà même de la fragilité que nous pouvons avoir et que nous avons tous à un moment ou à un autre concernant notre langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et de manière alternative, parfois nous distribuons l'un et l'autre et nous devons veiller à cela. Mais Jacques dit, on a beaucoup plus de problèmes que la langue, que le langage. Nous branchons tous de plusieurs manières. Alors vous allez me dire, non, moi je ne veux pas confesser ce qui est négatif. Hein, non, ça c'est la parole de Dieu. Hein, donc je m'en tiens à ce que l'apôtre Jacques dit. J'aime ce texte, vraiment, parce qu'il nous amène sur un terrain de vérité. Pas sur un terrain de faux-semblant, pas sur un terrain de la religiosité où on devrait montrer un niveau de perfection morale et spirituelle et autre qui fait que tout va toujours très très bien et on rajoute souvent par la grâce de Dieu. Oui, bien sûr. Mais pour autant, si je suis aveugle sur mes fragilités, je vais buter toujours sur les mêmes choses, les mêmes écueils, les mêmes défauts, les mêmes faiblesses. Ça va pas être un domaine de bonne santé pour moi, au contraire. Les fragilités, c'est ce qui altère notre bonne santé, relationnelle, intérieure. Quand il y a parfois des pensées récurrentes en nous, du style « tu es pas capable, personne ne s'intéresse à toi, tu ne veux pas le coup, tu ne réussiras jamais, personne ne fait attention à toi, mais tu rates toujours tout », et ainsi de suite. Vous voyez, ces pensées négatives que personne ne voit, qu'on a parfois hérité de l'éducation reçue, ou parfois de nos propres fragilités internes, manque d'assurance, manque mauvaise estime de soi, et on passe. Et puis ça vient là comme ça, personne ne le voit, personne ne s'en rend compte, mais ça vient altérer notre bonne santé, ça vient diminuer notre assurance, notre confiance. Ça change notre relation avec les autres, parce que du coup on pense que tout le monde nous voit comme on se voit soi-même. Et du coup, comme on se voit négativement, on pense que tout le monde nous voit. Vous savez, quand on a un problème, on pense que tout le monde nous voit à travers ce problème. Et ainsi, ça change et ça déforme nos relations et ça altère notre santé intérieure. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que la marche par la foi, ce n'est pas une garantie que nous n'avons plus de faiblesse, plus de fragilité, mais c'est qu'au contraire, nous sommes capables de les identifier pour les apporter à Dieu, pour les lui présenter, pour les avouer, et parfois pour les avouer les uns devant les autres. Quand nos fragilités sont source de problèmes, de tensions avec ce qui nous entoure, eh bien, j'ai le devoir de dire, ben oui, pardon. Mes fragilités ont parfois handicapé ma vie familiale, ma relation avec mes enfants. Elles ont parfois compromis ma relation conjugale avec mon épouse. Parce que mes faiblesses, mon mauvais caractère, et puis j'en dis pas plus, parce que sinon vous pourriez perdre l'admiration, le peu d'admiration que vous pouvez avoir pour moi. Non, je blague. Mais voilà, si je ne reconnais pas ce qui est source de tension inutilement de ma propre faute envers mes conjoints, envers mes proches, eh bien, les relations ne seront pas en bonne santé. Et puis moi-même, je ne serai pas en bonne santé. Donc l'Écriture nous montre ici que la marche par la foi, c'est pas nier ses problèmes, c'est pas nier ses fragilités, c'est pas proclamer « je puis tout par celui qui me fortifie », ce qui est vrai, mais qui n'est pas là pour masquer la vérité de qui nous sommes et de notre besoin de Dieu, qui est là simplement pour dire « je sais qui je suis, je sais que j'ai besoin de lui, je sais que sans lui je ne peux rien, je m'humilie, je reconnais mes fragilités, et parce que je suis dans la vérité, alors je peux marcher dans l'assurance et la vraie autorité ». Ainsi, reconnaître ses fragilités, c'est important. Ce n'est pas un signe de faiblesse de dire pardon. Ce n'est pas un signe de faiblesse de dire, voilà, là, je suis Seigneur, j'ai besoin de progresser. J'ai besoin de changer. Ma femme m'a dit, surtout, change avant la retraite. Elle parlait de mon caractère, vous l'avez compris. Je n'en dis pas plus sur mon caractère, mais bon, voilà. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai repoussé l'âge de la retraite. Non. Il y a tellement d'attitudes, de réflexes, de comportements, de façons de penser, de voir qui sont ancrés en nous et qui, malgré la foi, malgré le pardon de nos péchés, malgré la communion avec Dieu, malgré la reconnaissance que tout le monde peut avoir de notre valeur spirituelle ou autre, demeurent là. Si je les enfouis, si je les cache sous le tapis, et c'est vrai pour ma vie, c'est vrai pour nos foyers, c'est vrai pour l'Église, Si on cache ces fragilités sous le tapis en disant pour que personne ne les voie, un jour ça explose. Un jour ça paraît à la lumière. La bonne santé, c'est être vrai. C'est être devant Dieu, disant Seigneur, oui, là, j'avoue que j'ai des progrès à faire. Je m'ouvre à toi. Le pardon du Seigneur nous est toujours acquis, c'est ça qui est formidable. Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais ça n'altère pas le pardon et le regard que Dieu a sur nos vies. Parce que si nous marchons dans la lumière, 1 Jean chapitre 1, verset 7, si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans la reconnaissance de qui nous sommes, y compris de nos fragilités, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dieu ne se détourne pas de nos fragilités. Dieu ne nous reproche pas nos fragilités. Il nous invite à les lui offrir dans la vérité, dans l'humilité et dans la repentance. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière, si nous marchons avec la lucidité, avec l'honnêteté de reconnaître nos fragilités. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous voyez, ça va loin. J'aime cette parole de Dieu qui nous permet d'aller au cœur des problèmes, des difficultés et de voir combien Dieu va apporter une bonne santé. Alors là, on parlera plus des relations tout à l'heure, mais là, maintenant, restons-en sur ce côté de nos fragilités. Est-ce qu'on prend du temps dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, que ta lumière vienne ? Vous savez, ces prières des psaumes, vous dites, sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, Éternel. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ce n'est pas toujours une mauvaise voie quant à nos actions ou nos comportements, parfois oui, mais parfois une mauvaise voie dans nos pensées, intérieurement. Est-ce que je suis bien positionné ou non dans mon regard sur ma vie, dans mon regard sur Dieu ? Est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont ? Est-ce que je laisse le regard des autres aussi me remettre en question sur qui je suis ? Vous savez, moi, quand je suis tout seul devant Dieu, je suis le chrétien le plus saint que la terre n'ait jamais porté. Ça, je vous le garantis. Je suis d'une patience, d'une bienveillance. Je précise bien, hein. Quand je suis seul devant Dieu. J'ai un cœur plein d'amour, plein de patience, plein de compassion. Ah, c'est extraordinaire. Hein. Et puis dès que une situation intervient, je ne parle même pas de quelqu'un d'autre, mais une situation intervient, au volant de la voiture ou je ne sais quoi, quelque chose, vous savez, qui ça se passe pas comme on voudrait. Alors tout d'un coup, l'homme le plus patient que la terre ait porté devient le plus impatient et le plus exécrable. Et pareil, quand je suis en relation avec quelqu'un avec qui les choses ne se passent pas comme je l'entends ou qui ne répond pas à mes attentes, d'un coup, hop, l'impatience revient. Alors, on a besoin d'avouer et de reconnaître ses fragilités. Et elles se voient parfois dans nos relations, elles se voient dans nos réactions. Autant être vrai dans la présence de Dieu. Moi, c'est ça que j'aime dans l'Église, hein, c'est qu'on a le droit d'être vrai. Mes amis connaissent mes fragilités, ça ne m'excuse pas pour ne pas les traiter, mais au moins nous sommes sur un terrain de vérité, de communion et de progrès les uns et les autres dans la présence de Dieu. Alors c'est un encouragement, laissons la lumière de Dieu sonder, éclairer nos fragilités, faisons face à cela. Et parfois on a besoin d'accompagnement extérieur, pas seulement pastoral mais aussi psychologique. Pour pouvoir être face à des racines parfois dans nos comportements qui ont besoin d'être soignés par le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut, parce qu'il veut la bonne santé. Je n'ai pas peur d'avouer mes fragilités, puisque le but, ce n'est pas de m'y encourager, de m'y endurcir, et de m'y encrouter, passez-moi l'expression, mais le but, c'est d'en sortir. Et c'est de progresser. Et j'espère ne pas attendre la retraite pour ça. Même si elle est proche. Je blague à part. D'accord pour dire Seigneur. Et puis pour dire, voilà, peut-être que parmi nous, des gens se sont refusés de voir leur fragilité. Des années passent, et puis on sait qu'on réagit de telle ou telle façon, et que, ma foi, c'est un peu. C'est source de problème pour nous et pour les autres. Et puis. Mais on laisse passer, on laisse courir, au lieu de traiter cela avec Dieu, et de lui permettre de nous guérir. Et de nous redonner une meilleure santé. Amen. Vérité, humilité et puis sincérité sincérité devant Dieu. Troisième domaine qui est déterminant pour notre bonne santé, c'est celui de nos relations, les uns avec les autres. On ne peut pas être en bonne santé tout seul. On ne peut pas être dans une bonne forme, bonne relation avec Dieu, en vivant de manière isolée, seule, coupée de nos relations. Nous sommes des êtres de relations. Et du coup, nos relations, elles sont aussi un domaine qui doit être traité dans la présence de Dieu. C'est un domaine un des plus sensibles, un des plus difficiles. Les relations humaines, et je ne parle pas que dans l'Église, je parle sur le plan général, c'est absolument le domaine peut-être cible de l'action des ténèbres. Nous sommes créés pour être en relation avec Dieu, pour être en relation les uns avec les autres. Relation harmonieuse, paisible, constructive, dans la vérité, c'est vrai, parfois dans la différence, certainement, mais de manière constructive. Et pourtant, c'est ce qui est le plus menacé. Les incompréhensions, les cultures, les sensibilités, les façons de voir, les opinions. Et ça dure depuis longtemps, ça. Hein. Ça a commencé depuis le Jardin d'Éden, au moment de la chute. Ça s'est poursuivi tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Ça s'est vu aussi dans l'Église. L'Église qu'on appelle primitive, du 1er siècle. Cette Église qui était pleine du feu, du réveil, et dans laquelle pourtant il y a eu des dissensions extrêmement vives. Des désaccords, et parfois des désaccords d'opinion. Il faut relire Romains 14 et 15, où les gens se battaient sur des positions qui semblaient à chacune légitimes, manger de tel aliment ou pas, respecter telle ou telle fête, c'était les problématiques de l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres problématiques. Je vous laisse imaginer la façon de gérer la pandémie, le vaccin, etc. On a encore d'autres sujets de discorde. Et on réagit parfois de la même façon, à travers ces opinions que l'on a, qui sont légitimes. Paul dit, si quelqu'un observe les jours, ou si quelqu'un ne mange pas de viande, il le fait pour le Seigneur. Par contre, si... quelqu'un pense différemment, il le fait aussi pour le Seigneur. Et voilà qui met chacun sur un pied d'égalité devant Dieu. Non plus dans la compétition, non plus dans la confrontation, non plus dans la discussion dans laquelle on va affirmer son droit et son bon droit, mais devant le fait qu'on est tous aimés de Dieu, que Dieu ne m'aime pas plus parce que j'ai raison ou parce que je crois avoir raison, et il n'aime pas moins mon frère ou ma sœur parce que il a sûrement tort, ou j'estime qu'il a ou qu'elle a tort, mais qu'il a le même amour pour l'un et pour l'autre. Et ce qui fait que notre regard doit changer sur les uns et les autres, c'est que Dieu a le même amour pour chacun et que nous ne devons pas soupçonner non plus de mauvaises intentions à ceux qui nous entourent. Si quelqu'un observe les jours, dit Paul, il le fait pour le Seigneur. Amen. Et moi, si je n'observe pas les jours, pour rester sur l'image de Romain, hein, vous pouvez le décliner sur toutes les différences d'opinion d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourrait s'arrêter, faire un exercice là, pratique pour voir toutes les différences d'opinion dans lesquelles nos relations sont mises à mal. Il le fait pour le Seigneur. Amen. Alors, vous pensez à quelqu'un qui pense différemment de vous, et vous allez dire après moi, si vous voulez, hein, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste un exercice. Il le fait pour le Seigneur. Il le fait pour le Seigneur. Et le Seigneur l'aime tel qu'il est. Il ou elle. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais qui font que nos relations sont apaisées et sont dans la meilleure santé possible. Alors, pour savoir si, justement, dans ce domaine, je suis en bonne santé. Moi, j'aime un texte qui est d'une radicalité extraordinaire et une profondeur qui nous interpelle. C'est le texte d'Hébreux, chapitre 13, au chapitre 12, au verset 15, où l'apôtre nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » La Bible dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ça, c'est massif, c'est... Oui, d'accord. Mais là, on va un peu plus loin dans le domaine des relations. On n'est pas dans une déclaration générale, on est dans la dénonciation, le discernement de petits trucs dans nos vies qui sont des obstacles à l'amour les uns pour les autres. Et ces petits trucs, c'est ce que la Bible appelle ici des racines d'amertume. C'est que des racines. On n'est pas encore dans l'amertume qui a explosé, qui a produit des fruits, qui a des fruits douloureux. On est juste dans la racine, avant qu'elle ne porte des rejetons. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amertume ne vienne se développer, porter du fruit, du mauvais fruit, et que plusieurs n'en soient infectés. Comment est-ce que je peux discerner ces racines d'amertume dans ma vie ? Quand je pense à des personnes, quand je pense à des situations, quand je suis face à des expériences de vie qui mettent en cause des personnes et que, intérieurement, j'ai un peu de mal à bénir, vous savez ? Un peu de mal à... Ça passe pas, quoi. Pour moi, c'est un signe, dans ma propre vie, je vous le livre tel quel, qu'il y a une racine d'amertume. Nous sommes appelés à bénir. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Nous sommes appelés à bénir. C'est la volonté de Dieu, comme à rendre grâce, mais aussi à bénir. C'est à cela que vous avez été appelés, dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Quel est mon appel ? Il est différent pour chacun, mais un appel commun, universel, c'est de bénir. Bénir. Bénir, c'est cette capacité, cet élan de cœur qui nous porte à aimer et à souhaiter le meilleur pour l'autre. À appeler la grâce, à appeler la bénédiction de Dieu sur la vie de l'autre. Il y a des situations dans lesquelles on n'a pas de mal à bénir. C'est naturel. Et d'autres où on ne maudit pas. Non, non. Mais on ne bénit pas pour autant. La bénédiction s'arrête là. Elle s'arrête où là, je ne sais pas. Ça ne passe pas. Et ça, c'est des signes que j'ai besoin d'identifier la racine d'amertume dans ma vie pour ne pas la laisser porter du fruit. Le proverbe nous parle de cette bénédiction qu'il y a à bénir. Celui qui répand la bénédiction sera lui-même dans l'abondance. Proverbe 11, verset 25. Celui qui arrose sera arrosé. Vous connaissez l'histoire de l'arroseur arrosé ? Dans notre culture, ça a pris un sens négatif. Hein. L'arroseur arrosé, c'est que celui qui... Voilà, la personne est punie d'avoir fait quelque chose de mal. Mais c'est une perversion du texte biblique. L'arroseur arrosé dans la Bible, c'est positif. Si j'arrose par la bénédiction, je serai arrosé. Et c'est un phénomène spirituel, c'est une loi spirituelle. Quand je donne, je reçois. Quand je bénis, je suis béni. On peut s'interroger, quand je ne me sens pas aimé, d'où ça vient ? Est-ce que c'est les autres qui ne m'aiment pas ou c'est parce que je n'ai peut-être pas assez semé l'amour ? Celui qui arrose sera arrosé. Je veux apprendre à surmonter ces racines d'amertume, à les dépasser, à ne pas les laisser grandir pour pouvoir trouver la bonne santé. La bonne santé, elle est dans l'abondance de la bénédiction et de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amertume, ça va loin dans nos vies. Hein. On peut être amer face à son passé, face à ses échecs passés, face à sa famille, à son héritage familial, à la vie qui nous paraît ingrate, injuste. Et on a toutes sortes d'amertumes, de raisons d'entretenir l'amertume. Et par rapport aux personnes qui nous entourent, donc, qui n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'on attendrait, l'amertume, elle est là. C'est comme un marécage, vous savez, qui fait pas de bruit, ça sent mauvais. Et un jour, ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, par l'aigreur, Seigneur, viens purifier nos cœurs de toute forme d'amertume. Viens mettre en moi l'abondance de ta bénédiction, de ton amour, de ton pardon. Parce que je veux être en bonne santé. Amen. Des fois, on pense que le pardon, c'est faire cadeau à l'autre de la faute dont il est coupable. Alors qu'en fait, bien sûr que c'est ne pas retenir, et c'est faire une forme de cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau à sens unique. Parce que le pardon nous guérit, nous aussi. Et donc c'est un échange. Je donne et je reçois. C'est l'arroseur arrosé. Que Dieu visite nos relations. Il y a quelques années, j'ai eu, par la grâce de Dieu, je l'ai amené à clarifier deux ou trois situations un peu douloureuses dans ma vie, avec dans des collaborations, dans des épisodes de vie où ça avait été assez chaud. Ça me pesait. Et je n'étais pas nécessairement en faute. Bien sûr, aux yeux des autres, je pouvais l'être, mais à mes yeux, je ne l'étais pas spécialement. Mais c'était là et ça pesait. Vous savez, c'est des choses qui reviennent tout le temps, qu'on a en tête. Et puis, t'entends dire, ah, quand même, là... Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai été amené à clarifier ça. Dans l'espace de quelques mois. Et tout d'un coup, j'ai senti un poids tomber de mes épaules incroyable. Au point que j'ai dit à ma femme, bon, allez, ça y est, j'ai réglé mes problèmes. Je suis prêt à partir à la maison du Père. Les années ont passé, je suis toujours là. Mais moi, je me sentais tellement léger que voilà, j'étais prêt à rencontrer le Père si ça avait été le moment. Alors, voilà, ici, les relations. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça. Mais au moins, il faut être prêt à identifier les racines d'amertume, à laisser Dieu nous apprendre à les traiter. Ça peut prendre du temps. Hein, ce n'est pas magique, c'est pas... Mais n'empêche que c'est notre détermination qui va faire la différence. Je peux continuer un petit peu. Je pense à un autre domaine, c'est celui de l'inquiétude. S'il y a une maladie qui attaque aujourd'hui notre bonne santé intérieure et psychologique, c'est l'inquiétude. Un poids de peur, d'insécurité s'est abattu sur notre génération d'une manière jamais connue. Jamais avec autant d'intensité, sur le plan sanitaire, bien sûr, sur le plan de l'économie, sur le plan social aussi, parce qu'il y a il y a la peur de l'autre. Beaucoup de gens sont retenus dans leurs relations aujourd'hui parce que la peur d'être contaminé, la peur de reprendre des relations sociales normales, et donc s'isolent. Et il y a des maladies psychiques qui se développent à cause de cela, sans parler, bien sûr, des dépressions et même des suicides. Et tout cela avec cette peur, cette inquiétude face à la maladie, face au lendemain. Toujours, j'ai écouté une émission dans laquelle on demandait à un psychologue quel était l'un des meilleurs moyens de faire face à l'inquiétude ambiante dans laquelle on était aujourd'hui. Cette personne disait une parole qui m'a interpellé. Ce qu'il faut, c'est penser au moment présent. Vivre le moment présent. Alors, ça paraît rien comme ça, mais tout d'un coup, dans ma tête, ça fait écho à une parole que Jésus a dite il y a bien plus longtemps, il y a 2000 ans. Après avoir dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout », il ajoute cette parole « À chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même ». Et du coup, cette parole s'est éclairée grâce à l'intervention de cette psychologue qui dit « Mais en fait, c'est ce que Jésus nous apprend à vivre ». L'inquiétude, c'est quand on se projette dans l'avenir, proche ou lointain, avec peur, avec anxiété. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit les choses qui ne vont pas, ça s'amplifie, ça se multiplie. Hein. C'est contagieux. Alors que Jésus nous dit, mais chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Ce n'est pas l'invitation à l'inconscience, à l'irresponsabilité, au défaut de gestion. Non, non, non. C'est juste l'invitation à vivre le temps présent, à apprendre à le savourer, à l'apprécier sous le regard de Dieu. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. On peut le dire ensemble, ça ? Votre Père sait de quoi. Mon Père sait de quoi j'ai besoin. Et il le sait mieux que moi. Moi, je vois ce dont j'ai envie, mais pas toujours ce dont j'ai besoin. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça veut dire que on n'est pas là devant quelque chose de secondaire, d'anecdotique, cette dimension de l'inquiétude. On est devant une stratégie de l'ennemi pour anesthésier notre foi, notre regard sur l'avenir, notre confiance, et amener l'insécurité. Et ça, c'est pas la bonne santé, l'insécurité et la peur. Je dois donc réapprendre ce regard de confiance dans le Père qui sait de quoi j'ai besoin et qui a le pouvoir de répondre à nos besoins selon sa richesse et non pas selon nos ressources ou nos calculs ou notre façon de gérer, mais selon sa richesse, et apprendre à vivre le monde dans la reconnaissance, dans la foi. La foi, c'est parfois se projeter dans l'avenir, mais pas dans la crainte, pas avec la peur. Si je me projette dans l'avenir, c'est dans la foi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Donc la foi, oui, c'est se projeter dans l'avenir, c'est avoir une vision pour l'avenir, mais une vision de confiance. L'inquiétude, c'est se projeter dans l'avenir avec peur, avec anxiété, en dehors d'un regard de foi. Alors, pour l'avenir, c'est une chose, mais pour le présent, aujourd'hui, la reconnaissance, la confiance dans le fait que Dieu pourvoit, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Ça, c'est un regard de foi et une attitude mentale que l'on doit développer. Au lieu de se laisser happer par le flot d'informations, de tout ce qui nous amène à nous projeter dans l'avenir, et souvent avec anxiété, avec crainte, vivons le moment présent, dans sa présence. Aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui es. C'est toi qui pourvois, c'est toi qui me donnes. Et du coup, je suis en bonne santé, parce que dans la confiance, dans la paix, et dans la sécurité. Dernier domaine de nos vies, et j'en terminerai par là, où il faut que nous soyons en bonne santé, c'est celui de la conscience de notre mission, de la vision qui nous anime individuellement, mais aussi en Église. J'ai parfois, par humour, mais ce n'est pas si faux, l'habitude de dire qu'on peut être chrétien, on peut être sauvé, tout en étant perdu. Sauvé dans l'éternité, mais perdu dans le quotidien. Parce qu'on n'a pas le sens de sa vie. On n'a pas trouvé la place, la mission, la vision que Dieu a pour nous. Et je ne veux pas être négatif et incrédule, mais je crains que nos églises soient remplies de situations comme cela, de personnes qui jouissent de la relation avec Dieu, vraiment, sans pour autant avoir compris le sens que Dieu veut donner à leur vie. Or, l'église est un lieu de découverte des talents, des dons, des appels de chacun. C'est là, dans sa présence et dans la relation les uns avec les autres, dans les différentes activités que l'on fait, les différents services dans lesquels on est impliqué, où on prend conscience, tiens, voilà, Dieu m'a donné ce talent. Dieu m'a donné cette espérance. Dieu m'a donné cette vision. Dieu m'a donné cette espérance, cette raison de vivre. Et je vais m'y attacher. Et je vais avancer vers cela. Ce serait trop bête de laisser passer les années en jouissant, certes, du pardon, de la paix, de la relation avec Dieu, mais sans entrer dans l'appel que Dieu nous a adressé à chacun. Amen. C'est du gaspillage. C'est pas honorer ce que Dieu nous a donné. Et c'est surtout aussi ne pas travailler à la bonne santé, parce que du coup, la vie devient un fardeau. Le lundi devient une journée pénible, parce qu'il faut retourner au travail. Le quotidien devient insoutenable, parce qu'on l'affronte. Mais on l'affronte comme un esquif sur les eaux, ballotté de tous les côtés. Au lieu d'avancer dans la confiance que Dieu nous conduit, que Dieu a un plan, que Dieu a un projet, que nous avons une mission à accomplir, que nous avons un but à atteindre, des choses à construire. Donc c'est important que la vision que nous avons pour notre vie, pour notre famille, soit précise, soit clarifiée, soit toujours plus avivée, éclairée par le regard du Seigneur dans notre vie. Ça, c'est vraiment un point important. On n'a pas tous une grande destinée nationale, mais peu importe. On a tous une destinée royale. Même dans le quotidien simple, anonyme de nos vies, nous comptons pour le royaume de Dieu. Nous sommes des agents du royaume de Dieu. Et prendre plaisir à ce que je fais, à ce que je suis, jour après jour, et puis poursuivre les objectifs que Dieu me donne, avancer dans la foi, que Dieu bénit mon action, mon activité professionnelle, ma vie familiale, mes engagements, tout cela, ça donne du sens à ma vie. Alors pour être sûr qu'on est au cœur de la volonté de Dieu pour notre vie, il y a des choses très simples à faire, c'est se dire, qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que Dieu met en moi comme rêve, comme aspiration? Et puis chacun aura une réponse différente. Pour certains, ça va être l'éducation de ses enfants, ça va être le foyer, ça va être le service des autres, ça va être l'engagement professionnel dans lequel Dieu vous a conduit, ça va être les relations que vous entretenez, les objectifs que vous menez dans telle ou telle association, peu importe. Mais tout ça, ça collabore à la vision que Dieu vous donne et à sa mission, la mission qu'il vous confie. Voyons Dieu dans ces choses-là, dans ces désirs, dans ces élans, dans ce quotidien. Discernons la main de Dieu et avançons avec confiance que là, nous sommes au cœur de sa volonté. Je fais ce à quoi Dieu m'a appelé. J'avance dans l'appel qu'il m'a donné. Je crois qu'il a les compétences et les dons qui vont avec pour que je puisse le servir dans ce domaine-là. Et là, la vie reprend du sens. Le quotidien reprend du sens. La vie au travail reprend du sens. Peut-être que ce que je fais au travail n'est pas au cœur de mon appel, mais ce que je suis dans ma relation avec les autres, ce que j'apporte dans le rayonnement, dans la paix, dans la justice, dans la joie, dans le pardon, dans la vérité, tout ça, ça donne du sens à ma vie. Et ça donne du sens à ce que je fais. Et je suis dans mon appel, je suis dans ma vision, je suis dans ma destinée. Et c'est bon d'en prendre conscience. Pas pour une gloire personnelle, pas pour la vanité, mais juste pour dire, Seigneur, je veux te glorifier. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Glorifiez Dieu en toutes choses. Tout ce que l'on fait, si c'est fait avec la conscience que nous sommes au service de Dieu, pour sa gloire, et que si nous le faisons avec les talents qu'il nous donne, tout cela, alors glorifie Dieu. Et Dieu éclaire notre quotidien de sa présence et de sa gloire. Et ça donne du goût à la vie. La vie reprend des couleurs. Le quotidien reprend des couleurs. Et là, on s'était comme inquiété ou arrêté devant des obstacles, des tensions, des difficultés au travail, dans les relations, dans le quartier, des choses qui parfois semblent lourdes, difficiles à surmonter. Tout le coup, on voit ça différemment. Parce qu'on ne se laisse pas arrêter par l'opposition, la difficulté. Mais on sait qu'on est là pour la gloire de Dieu, pour accomplir une œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Et du coup, on avance, on prend les choses à bras le corps et on voit Dieu agir et transformer notre quotidien. Cette vision de soi-même, elle est vraiment, pour soi-même, elle est vraiment essentielle pour notre bonne santé. Quand Jésus voyait les foules et qu'il disait qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger, et qu'il les appelle et qu'il nous appelle à venir à lui, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » On n'est pas fatigués et chargés parce qu'on fait beaucoup de choses nécessairement. On est fatigué et chargé parce qu'on fait des choses sans savoir pourquoi on les fait. Sans but. On subit le quotidien. Et il n'y a rien de plus lourd que de faire des choses sans savoir pourquoi on les fait. Mais quand on prend conscience qu'on est là pour Dieu et qu'on le sert et qu'il nous donne les talents et la provision pour accomplir son œuvre, alors là, on goûte à son joug, à son repos. Son joug est aisé et son fardeau est léger. Amen. Amen pour les visions, pour les appels, pour tout ce que Dieu a fait déjà à travers vous et ce qu'il va continuer de faire pour toutes les vies qui vont s'éclairer de la révélation de Dieu, la révélation de la destinée que Dieu a pour vous. Ça donne de la bonne santé, du long cours. Voilà. Oui, on peut se glorifier dans le Seigneur. L'apôtre Paul n'a pas manqué ça. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et quand se glorifier dans le Seigneur, c'est reconnaître ce que Dieu, ce à quoi Dieu nous a appelés, et c'est reconnaître son œuvre à travers ce que l'on fait. À travers les choses toutes simples du quotidien que l'on fait, par des paroles de bénédiction, par des paroles des attitudes de justice, par des. Voilà. On voit Dieu à l'œuvre, et là on se glorifie dans le Seigneur, et nos vies reprennent de la couleur pour sa gloire. Amen. Alors bon, je m'arrête là parce que le temps passe, et puis alors pas de fête qui nous attend. Et là, on va aussi travailler à notre bonne santé. Mais ce matin, je voudrais terminer pour dire, Seigneur, sonde-nous. Je veux prier pour la bonne santé pour chacun, dans chacun de ces domaines. Alors, on ne va pas tous les prendre ensemble, mais au moins être conscient que dans chacun de ces domaines, il y a des provisions de Dieu pour la bonne santé. Et je vais faire cela avec une manière particulière, avec une proclamation de l'Écriture. C'est le psaume 118. Dans lequel, ce n'est pas le psaume tout entier, mais c'est le dernier verset de ce psaume, un des versets de ce psaume, c'est le verset 17, où le psalmiste aura une parole d'une force et d'une autorité magnifique, où il dit, Moi, j'ai souvent pris cette parole dans les cas où des personnes souffraient de maladies, comme une déclaration de foi. Et la maladie, c'est évidemment, ce n'est pas la bonne santé. Mais je voudrais prendre cette parole pour toute forme de maladie qui atteint nos vies. Le psaume 118, verset 17, qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas dans ma relation avec Dieu. Certains peut-être ont l'impression que cette relation, elle se distend. On va te proclamer. Je ne mourrai pas dans ma relation avec Dieu. Je ne mourrai pas à cause de mes fragilités. Je ne laisserai pas ces fragilités atteindre ma santé au point de me réduire. Peut-être pas à la mort, mais en tout cas à l'inertie, à la faiblesse. Je ne mourrai pas face à ma fragilité. Amen. Et si vous êtes assailli par des pensées négatives, par des fragilités intérieures, de tempérament, de comportement qui vous font la guerre, on peut dire, eh bien, non, nous ne mourrons pas face à cela. Mais il y a un chemin de guérison de Dieu. Je ne mourrai pas dans mes relations. Il n'y a rien de plus terrible que de mourir dans les relations, quand les relations se distendent et qu'on est isolé. Ça, c'est la mort. Je ne mourrai pas. Je prie pour des relations vivantes. Je prie pour des résurrections dans les relations, dans le couple parfois, dans la famille, entre parents et enfants, dans l'église quand c'est nécessaire, parfois avec des gens du dehors, avec nos voisins. Nous ne laisserons pas la mort toucher nos relations. Je ne mourrai pas dans mes relations. Je vivrai. Mes relations vivront. Nos relations vivront. Alléluia. Je ne mourrai pas dans l'inquiétude. Je vivrai dans la foi et la confiance, dans les provisions de Dieu. Je ne mourrai pas dans l'absence de vision. Je ne vais pas attendre la fin de ma vie comme ça, que Jésus vienne me chercher sans but, sans direction. Je vivrai jusqu'au bout et je vivrai pour l'éternité dans sa présence, à son service. Amen. Vous voulez qu'on proclame cela ensemble ? On va prendre position face à tout ce qui altère notre bonne santé, tout ce qui voudrait nous terrasser, nous amener à la fragilité, à la faiblesse. Et on va dire, Seigneur, par ta grâce, pour ta gloire, par ta grâce et par ta force, je ne mourrai pas. Alléluia. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Dans le domaine qui vous préoccupe, dites, je ne mourrai pas. Faites face à la maladie peut-être dans laquelle l'ennemi voudrait vous voir, vous enfermer ou tomber. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Amen. On va reprendre tous ces domaines. Je ne mourrai pas. Ma relation avec Dieu ne mourra pas. Elle ne s'éteindra pas. Elle ne faiblira pas. Mais elle va se fortifier. Je vivrai dans ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu sera encore plus vivante, encore plus forte, dynamique, de jour en jour, jusqu'au jour où je le verrai face à face. Je vivrai de sa vie. Je vivrai de la communion avec lui. Alléluia. Et si vous avez senti cette relation se distendre, prenez position. L'ennemi doit savoir que vous avez choisi la vie. Alléluia. Je ne mourrai pas dans ma relation avec Dieu. Je ne mourrai pas dans mes fragilités. Même si elles ont, année après année, si elles ont creusé leur sillon dans ma vie, et je ne mourrai pas face à mes fragilités. J'y fais face. Je leur fais face. Je les affronte. Et je oppose à mes fragilités le sang de Jésus, la guérison de ses meurtrissures, la guérison de son esprit, la consolation du Saint-Esprit. Je ne mourrai pas dans mes fragilités. Amen. Il y a de l'espoir de transformation, de renouvellement, de rajeunissement, de changement. Amen. Je ne mourrai pas dans mes relations. Amen. 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 Oh Seigneur, tu étends ta main. Tu étends ta main. Que tout ce qui a altéré, que tout ce qui a touché, tout ce qui a affaibli, tout ce qui a aussi infecté nos relations, d'une manière ou d'une autre, à tort ou à raison, c'est nous invitons la vie et la santé d'en haut. Nous ne mourrons pas dans nos relations. Nous appelons la résurrection des relations quand elles ont été menacées, quand elles ont été abîmées. Nous appelons la guérison, la consolation, la vie par l'autorité du nom de Jésus. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Personne ici n'a la capacité de le faire par lui-même, mais nous le pouvons par la grâce de Dieu. Dieu le fait. Je ne mourrai pas dans mes relations. Et je crois que dans le cœur des familles, parfois, et parfois dans les foyers, Dieu veut ressusciter tellement de relations, abîmées, usées, distendues. Je ne mourrai pas dans mes relations. Je vivrai. Appeler des relations vivantes, là où vous sentez qu'il y a besoin de restauration, besoin de guérison. Et croyez à la capacité de Dieu de le faire. Alléluia. Et en terminant, pour nos vies personnelles, mais aussi pour l'Église, ce qui est vrai pour nos vies, pour la vision, c'est vrai pour la vision de l'Église. Nous sommes là avec un but, une raison d'être, une mission. Je sais que vous y avez travaillé pendant ces derniers temps. Et tout cela, nous le plaçons devant Dieu. Et nous appelons la vie de Dieu, nous appelons la bénédiction de Dieu face à la vision que Dieu donne à chacun et à celle qu'il vous donne collectivement. Et nous disons, en tant qu'Église, nous ne mourrons pas. Alléluia. Nous vivrons. Nous vivrons de la vision de Dieu. Nous vivrons pour la vision de Dieu. Alléluia. Dans la foi qu'il a la provision pour amener tout cela à la réalité au nom de Dieu. Et je prends autorité maintenant sur tout ce qui voudrait altérer, compromettre, handicaper cette vision d'une manière ou d'une autre, par notre incrédulité, par notre manque de savoir-faire, par nos erreurs. Seigneur, nous plaçons tout cela sous ton autorité. Nous appelons ton sang précieux qui purifie, qui pardonne, et ton esprit qui corrige, qui guérit, qui renouvelle, qui reconstruit au nom de Jésus. Amen. Que la vision que tu as pour cette communauté, pas celle seulement que nous avons, même si nous la recevons de toi, mais celle que tu as et que tu nous communiques, Seigneur, soit vivifiée au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas. Notre vision ne mourra pas, mais elle est renouvelée. Nous vivrons, Seigneur, de l'obéissance à ta parole, de l'obéissance à ta vision, de la direction de ton esprit, de l'épanouissement que tu veux donner à notre communauté. Nous vivrons et nous raconterons les œuvres, les merveilles de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ensemble dans la foi qu'il y a de la bonne santé dans sa présence? Alléluia. Et en applaudissant, en acclamant, nous recevons la santé de Dieu. Nous recevons le renouvellement, la foi, le bien-être, l'élargissement, les guérisons dont nous avons besoin. Pour nous et pour tous ceux auxquels nous pensons, tous ceux qui nous sont chers, au près comme au loin, nous ne mourrons pas, nous vivrons pour ta gloire et pour l'éternité. Amen.
Nous vivrons.
Amen.
Amen.
On applaudit. Amen. Nous vivrons.